Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Cela ne vous a pas échappé, nous vivons une révolution technologique et peut-être économique. De la Californie à la Chine, en passant par l'Europe, de nouveaux noms, de nouveaux secteurs d'activité ont fait leur apparition. On parle maintenant couramment de start-up, d'incubateurs, de licornes, des entreprises Google, Amazon, Facebook, Blablacar, Alibaba, qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, incarne cette nouveauté et multiplie les innovations. Et partout, les municipalités, les régions, les États tentent de créer des environnements économiques favorables à l'activité de ces créateurs d'entreprises. La concurrence internationale est très vive, une véritable bataille mondiale pour l'innovation a lieu, et c'est le titre de cette émission. Alors, qui sont les grands acteurs de cette bagarre? Conditionne-t-elle l'avenir de l'économie mondiale? Va-t-elle marquer l'émergence d'un nouveau modèle économique? Voilà les questions que je vais poser aux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Dominique Guélec.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Dominique Guélec, vous êtes économiste à l'OCDE, où vous dirigez le service chargé d'évaluer les politiques d'innovation. Vous avez aussi publié, il y a quelques années, en 2009, un livre sobrement intitulé « Économie de l'innovation » aux éditions La Découverte. En quoi ces nouvelles entreprises dont je parlais, ces nouvelles richesses, sont-elles un champ d'investigation pour l'économiste que vous êtes ?
L'économiste s'intéresse avant tout aux questions de croissance. Hein. La croissance, c'est ce qui fait que dans le long terme, on est plus riche en moyenne qu'on ne l'était par le passé. Et l'innovation est une force essentielle de cette croissance. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est effectivement un processus de révolution technologique tiré par l'innovation, notamment dans le domaine digital. On attend d'énormes impacts hein, en termes de productivité, en termes de concurrence entre pays, en termes de structure de marché à l'échelle mondiale et aussi en termes de répartition du revenu.
Donc alors on va parler de tout ça dans cette émission. Laissez-moi vous présenter Séverin Audet qui est en face de vous dans ce studio. Bonjour Séverin Audet.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Séverin Audet, vous êtes un des animateurs de l'Internet en France. Vous avez passé quelques années, 5 années à l'hôtel de Matignon aux côtés du Premier ministre François Fillon. Vous avez rejoint l'équipe fondatrice du site Dailymotion il y a quelques années, et vous avez dirigez maintenant une entreprise qui s'appelle WeWork France. Que fait-elle exactement ?
WeWork, c'est la nouvelle façon de travailler, c'est une communauté, c'est une plateforme communautaire d'entrepreneurs et de créateurs, c'est plus de 130 000 personnes dans le monde, en plus de 33 villes aujourd'hui.
Et qui fait quoi ? Exactement.
Eh ben, qui met les entrepreneurs et les créateurs en lien, ensemble, dans des espaces physiques, dans les villes, à Paris, à Londres, à Berlin, à Mexico, à Los Angeles, à Shanghai, et qui leur permet, sur une plateforme techno, de faire du business ensemble, de trouver un fournisseur, un client, d'être un levier de croissance, d'être un levier d'internationalisation de leur business.
Troisième invité qui vient d'arriver, Loïc Dosseur, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Loïc Dosseur, vous êtes le co-directeur général d'une structure qui s'appelle Paris & Co. C'est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris. Quelle est votre mission ?
Notre mission, comme vous l'avez donné un petit peu dans notre titre, c'est le développement économique du territoire. Alors, quand on dit Paris, c'est même aujourd'hui une métropole, beaucoup plus, mais c'est d'agir effectivement au service du développement territorial, au service de l'emploi, par l'économie et par l'innovation.
Au cours de cette émission des reportages, nous retrouverons Ariane Gaffury ici à Paris, Heike Schmidt à Pékin et Nicolas Champeau à Durban en Afrique du Sud.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Loïc Dosseur, vous nous avez expliqué en quelques mots ce que vous faisiez. Est-ce que vous êtes dans la compétition internationale ?
Évidemment. Heureusement d'ailleurs, parce que ce serait un petit peu dommage de travailler le développement d'une cité comme Paris en étant en compète avec Grenoble, Toulouse ou Bordeaux. Non, les compétiteurs...
Vous l'êtes aussi ?
Non.
Vous n'êtes pas en compétition avec Toulouse, Grenoble ou Bordeaux ?
Non, on se tromperait probablement de cibles, si tant est qu'il faille des cibles à l'échelle internationale. Mais non, la place de Paris est beaucoup plus justement d'être en compète, d'attirer des talents à l'échelle monde.
Compétition.
Pas être en compétition, c'est beaucoup plus pour porter une certaine dynamique. Et d'ailleurs, on le voit très bien, nombre de startups qui sont installées à Paris vont également se développer dans d'autres villes, d'autres grandes métropoles françaises, qui, elles, sont en compète avec leurs homologues à l'échelle européenne ou des cités plus de taille intermédiaire. Donc Paris, sa compétition, c'est compétition très amicale avec Londres, de plus en plus, heureusement, beaucoup de coopération. Mais sinon, effectivement, la compétition s'organise avec les grandes métropoles asiatiques, avec New York, avec des cités globales très puissantes. C'est là qu'effectivement les grands investissements se déroulent. Donc on doit, nous, effectivement, batailler, réussir à démontrer la puissance et la capacité du territoire métropolitain pour permettre aux talents de s'exprimer, aux investisseurs de se développer, de gagner de l'argent, très simplement, parce que c'est du business. Et donc, c'est notre mission dans ce cas-là, c'est effectivement d'être porteur, parfois leader, devancier, parce qu'on va bénéficier d'un certain nombre d'outils publics qui vont nous aider à prendre un certain nombre de risques que l'investisseur pur privé ne peut pas prendre tout de suite. On l'a très bien vu dans le champ de l'hébergement des startups, et je pense que c'est vrai, on l'a décrit, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier temps d'action publique qui a permis effectivement de densifier la capacité d'immobilier d'entreprise à Paris pour que les startups se développent. Et aujourd'hui, c'est devenu un marché beaucoup plus ouvert qui permet à d'autres acteurs de venir investir et de donner du coup une puissance de feu qui se multiplie.
Sans le soutien, Séverin Audet, de structures publiques comme celle que dirige Loïc Dosseur, il n'y aurait pas d'activité d'innovation économique et technologique à Paris ?
Le soutien est essentiel et je pense que Paris a fait un travail absolument formidable. C'est une des villes où il y a le plus grand nombre d'incubateurs et d'accélérateurs qui permet la création de ce tissu économique, surtout à une époque qui n'est pas encore tout à fait révolue d'ailleurs, où la prise de risque dans ce pays est parfois quelque chose de compliqué. Donc oui, ça a été essentiel. Maintenant, il y a encore des vraies révolutions à faire en France pour rentrer de plein pied dans la compétition économique mondiale de ce point de vue-là. Il s'agirait qu'à un moment, on passe, mais c'est un débat un peu plus large, mais on est au cœur du sujet, d'une société du statut social, d'une économie de la rente, à une société du sens, du risque, de l'échec, donc du succès, pour devenir...
De l'acceptation de l'échec, vous
bien sûr, mais de la valorisation de l'échec. Parce que quand on a des échecs, c'est parce qu'on a tenté quelque chose. Et si on n'a pas d'échec, il y a assez peu de chances qu'un jour, on arrive au succès. Et c'est exactement ce que disait Mark Zuckerberg il y a 15 jours...
Le fondateur de Facebook.
À Harvard. Je pense que ce sont des vrais sujets sur lesquels il faut qu'on bouge si on veut que la France devienne un vrai pays compétitif dans l'économie mondiale de l'innovation.
Dominique Guélec, ce que viennent de dire Loïc Dosseur et Séverin Audet, ça vous parle ? Ça parle à l'économiste ?
Oui, absolument. Si vous regardez les grandes entreprises de l'Internet aujourd'hui, qu'on glorifie, les Google, etc., presque toutes sont nées dans un contexte qui implique d'une façon ou d'une autre la puissance publique américaine, notamment dans un contexte universitaire. Beaucoup sont nés à la suite de financements publics donnés par la National Science Foundation, etc., qu'ensuite ils ont développé, bien sûr. Et pour rebondir également sur ce que disait Monsieur Naudet, en France, on crée pratiquement autant d'entreprises innovantes qu'aux États-Unis, compte tenu de la taille du pays, bien sûr. La différence, c'est qu'en France, elles croissent beaucoup moins. Et là, se posent des questions effectivement structurelles, des questions de rapport au risque de la part des investisseurs, la structure du marché du travail, etc. Et l'État peut avoir un grand rôle à jouer pour faire avancer ces structures.
Alors, Séverin Naudet, on va tout de suite visiter le bâtiment dont vous nous parliez tout à l'heure, que vous dirigez en quelque sorte. Vous avez en effet ouvert vos portes à la reporter des RFI. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Ariane Gaffuri.
Alors là, nous sommes dans l'espace de coworking WeWork, rue Lafayette à Paris. Alors on rentre directement dans une grande salle avec une magnifique verrière. L'immeuble est classé Art déco. Donc là, nous sommes avec Maxime Besson qui gère l'espace WeWork.
Effectivement, la verrière, l'atrium, c'est un lieu de vie en fait, parce que l'objectif de WeWork, c'est de faire en sorte que les membres se rencontrent, puissent collaborer et derrière puissent faire du business ensemble. On a plus de 12 000 mètres carrés. On aura 2300 membres. Ce qui fait à peu près 250 entreprises qui vont investir le lieu.
WeWork abrite entre autres Ironhack, une école américaine spécialisée dans le développement web. François Fillette, directeur de Ironhack France.
On forme au code, web développement, au design. Le code, c'est le langage universel qu'il y a derrière tous les services qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce qui permet concrètement de faire tourner des services et des produits basés sur le numérique, c'est-à-dire sur la programmation informatique. La France, elle est devenue le second écosystème en termes de levée de fonds en Europe. Donc, il y a un manque de talent qui se fait de plus en plus sentir. Nous, à l'intérieur de ce marché-là, on a un modèle qui est un peu différent des autres, dans le sens où on a des formations courtes, intensives. On aborde véritablement le contenu de formation comme le développement d'un produit numérique en tant que tel. Donc on itère sans cesse sur le contenu de la formation en regardant l'évolution des technologies.
Alors je m'appelle Octave Laperroni, je suis un futur étudiant du premier cours d'Ironhack à Paris.
Alors pourquoi avez-vous choisi Ironhack ?
Aujourd'hui, il est essentiel de au moins comprendre ce qui se passe sous le capot pour être pertinent dans beaucoup de métiers qui vont exister à l'avenir. Donc à la fois pour pouvoir faire du développement web, mais aussi pour savoir ce dont j'ai besoin.
WeWork, un espace de coworking en open space disponible à partir de 450 euros mensuels ou plus pour des bureaux comme ceux de Hopwork. Hopwork est une plateforme de mise en relation entre freelance français et entreprises. Quentin de Bavelaire, directeur des opérations.
Le nombre de freelances a doublé en France dans les 10 dernières années. C'est un marché qui est en pleine explosion. Les bons freelances, ils sont déjà en mission. Il faut les chasser. Et donc nous, on est les seuls aujourd'hui à fonctionner avec un moteur de recherche où c'est le client qui choisit individuellement les freelances avec qui il veut travailler. Et ensuite, il les contacte. Et puis nous, on va s'occuper de tout l'administratif, la contractualisation, le paiement et l'assurance.
Et avoir ces bureaux au sein de WeWork n'est pas un hasard.
Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à venir ici. La première, c'est la flexibilité. Quand on est une start-up qui double de taille en fait tous les ans, un bail d'entreprise classique, 3 ans, 6 ans, 9 ans, ça ne convient pas parce que c'est beaucoup trop grand la première année et beaucoup trop petit la troisième année. Le deuxième avantage, c'est que ça nous inspire un peu aussi ce qu'on pourrait faire nous à l'avenir avec Upwork et nos freelances. Et la troisième raison, c'est qu'on est nous dans le B2B, donc nos clients sont des entreprises. Et donc en fait, la moitié des entreprises du bâtiment sont aujourd'hui des clients de Upwork. Et donc c'est aussi agréable d'échanger en direct avec nos clients actuels.
Upwork va bientôt s'installer en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas.
Belle fenêtre publicitaire, c'est un audet pour votre entreprise. La France est le second écosystème européen en matière de levée de fonds, disait l'un des intervenants. Ça veut dire quoi, Stéphane Audet ?
Moi, ce que je note, c'est que aujourd'hui, quand on veut commencer à lever des fonds en France, oui, on va peut-être pouvoir lever 100 000 euros quand on peut lever 1 milliard aux États-Unis. Et c'est ça la vraie différence en réalité. Donc,
oui, mais il y a une différence de taille du pays.
Oui, non. Enfin, c'est pas la différence de taille du pays qui fait la capacité de prise de risque des investisseurs. Il y a une réalité encore quotidienne qui est l'incapacité d'un certain nombre d'investisseurs à prendre des risques, d'une part, et d'autre part, il y a un problème fiscal en France. La fiscalité française ne crée pas de la richesse. On taxe à peu près à 35% les entreprises en France, quand la moyenne européenne est à 25%. Et on se rend bien compte que ça n'est pas comme ça qu'on peut faciliter l'innovation et l'écosystème de l'innovation. Et dernier point, tout à l'heure, on évoquait la proximité entre l'État américain et les entreprises américaines. Quand est-ce qu'on va harmoniser la fiscalité en Europe et arrêter de laisser Google, Facebook et les autres grandes entreprises américaines, que j'aime beaucoup pour ce qu'elles font, hein, mais faire de l'optimisation fiscale à tout va en Irlande ou au Luxembourg, quand par ailleurs, c'est le contribuable européen qui sauve l'Irlande de la faillite il y a quelques mois en lui versant des milliards. Il y a des mécanismes simples dans la bataille économique. Je crois que le sujet de votre émission, c'est comment on rentre dans la compétition mondiale de l'innovation.
Comment on y est, oui.
Il y a des leviers qu'on a sous les yeux. Tout a été écrit, tout a été dit depuis 10 ans dans ce pays. On manque pas d'idées en France hein, quand il s'agit de d'écrire ce qu'on pourrait faire. Tout a été écrit par Louis Gallois, tout a été écrit par Jacques Attali, tout a été écrit dans les programmes de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy, de François Fillon et d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'on ne fait pas. C'est ça le problème en France.
Dominique Gallec, l'innovation, c'est incontournable. Le soutien aux entreprises innovantes, c'est incontournable pour développer le pays, pour avoir de la croissance, pour créer de la richesse.
Oui, le soutien d'abord en termes de créer les conditions pour qu'elles puissent croître. Et je pense que ce que disait M. Naudet est important. Il y a d'un côté les leviers sur lesquels l'État français, le gouvernement français peut agir directement, certains leviers fiscaux notamment, le marché du travail, et puis il y a des leviers auxquels vous faisiez référence, qui sont des leviers internationaux. L'harmonisation fiscale, la France ne peut pas le faire toute seule. C'est un effort mondial auquel l'OCDE contribue, il y a eu des progrès. Et puis l'harmonisation fiscale européenne, ça fait partie de l'intégration européenne. Et là, c'est un véritable problème en Europe, il n'y a pas de marché européen, notamment pas de marché européen numérique. Et comme vous le disiez, si les entreprises américaines croissent, c'est entre autres parce que la taille du marché américain est bien plus grande, et les entreprises européennes sont handicapées de ce point de vue-là parce qu'il n'y a pas de marché européen. Il y a un marché français, un marché allemand, etc. Et ça, ça requiert que les États se mettent d'accord. L'État français ne peut pas le faire tout seul.
Ah non, mais si ça, juste un exemple, si on mettait les 15 milliards d'optimisation fiscale de Google dans le financement de l'innovation, je vous garantis qu'on pourrait aider notre écosystème à être encore mieux classé dans l'économie mondiale.
Loïc Dosseur, est-ce que les villes peuvent se substituer aux États ?
Les villes ont un poids indéniable, on le voit très bien aujourd'hui. On va prendre les chiffres de la démographie et nombre d'habitants sur la planète qui sont dans des métropoles. Et les villes, je pense, ont agi beaucoup plus. Effectivement, peuvent pas agir sur une fiscalité de façon puissante et harmonieuse à l'échelle européenne, ça c'est certain. Elles ont agi sur d'autres leviers, et on le voit très bien à l'échelle française et dans d'autres grandes métropoles. Je voulais revenir sur l'aspect du marché. Nombre de pays dans le monde ont des tout petits marchés, c'est ce qui fait l'excellence de leurs start-up, de leur tissu d'innovation. On a Israël en tête, inévitablement, un certain nombre de pays aussi d'Europe du Nord. Les Suédois sont très puissants pour exporter leur modèle parce que leur pays est petit. Et donc du coup, les entrepreneurs, nativement, savent qu'ils vont devoir s'exporter. Mais ils gardent un pied chez eux parce qu'il y a une puissance de l'enseignement supérieur, de la recherche et d'un certain nombre de dispositifs fiscaux qui font qu'effectivement, il est intéressant pour un investisseur international que d'investir dans une structure de type israélienne ou suédoise. En France, on a un problème, c'est qu'on a un grand petit pays. C'est-à-dire que le marché national est suffisant pour commencer à faire une belle boîte. Et donc, on fait des jolies PME d'innovation. Et le passage, effectivement, à l'échelle supérieure qu'évoque Séverin, on ne le fait pas. Parce qu'effectivement...
Ça, c'est une vieille histoire française. On a de très belles idées, on a de très beaux ingénieurs, mais on n'arrive pas à créer de grandes entreprises.
Parfois, on y arrive. Par contre, quand Dailymotion veut être racheté par Yahoo, enfin, Yahoo veut racheter Dailymotion, on lui dit non. Et donc, on envoie un signal terrible aux investisseurs internationaux en disant « Quand vous avez une très très belle boîte française, vous ne pourrez pas l'acheter. »
Mais Dominique Gallec, ce blocage français, il n'est pas propre aux nouvelles technologies, à l'innovation. C'est quelque chose qu'on connaît peut-être depuis des décennies.
Oui, tout à fait. Mais c'est sans doute des problèmes qui sont plus sensibles dans un domaine où la démographie des entreprises est beaucoup plus active. Beaucoup plus d'entreprises croissent beaucoup plus vite dans ce domaine. Et donc, elles sont très vite confrontées à tous les problèmes que vous mentionniez. Dans les secteurs traditionnels, les entreprises françaises qui ont survécu ont eu le temps d'établir des réseaux de distribution à l'échelle internationale, dans l'automobile, dans la chimie, etc. Lorsque vous devez construire ces réseaux ex nihilo, là, vous vous heurtez effectivement à tous ces problèmes.
Loïc Dosseur ?
Aujourd'hui, on utilise le mot start-up qui est très pratique, c'est un mot valise assez magique, mais finalement, on est dans un jeu entre une toute petite entreprise qui doit devenir PME, ETI. En France, on le voit très bien, et Paris est très marqué par ça, c'est-à-dire qu'on a un tissu de très grands groupes et d'un tissu start-up exceptionnel. Et l'entre-deux est très faible. Et qu'effectivement, le système de financement, à la fois capitalistique, de dette aussi, on ne parle pas des banques, mais les banques sont totalement absentes du sujet aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Elles font beaucoup de communication sur la relation start-up, bien évidemment. Mais prenez un tissu start-up, nous on a 300 boîtes à peu près dans le mur au quotidien. Je pense que si on les interroge, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, quand on regarde le taux de présence bancaire de façon active, je ne passe pas juste avoir un compte bancaire, je pense qu'on est en dessous de 1%. La dette n'existe pas, la dette sur l'immatériel n'existe pas. Et ça, il y a des leviers, il y a des capacités financières colossales qui permettraient de passer d'un statut de toute petite entreprise à des statuts de croissance qui nous permettraient effectivement d'avoir autre chose à citer que les 10, 20, 30 aujourd'hui startups qui ont passé le cap des 200 salariés.
Eh bien, Loïc Dosseur, on continuera cette conversation dans la deuxième partie de l'émission après un flash d'actualité. A tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Bouris.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de la bataille mondiale pour l'innovation. Qui sont les grands acteurs de cette bataille? Celle-ci conditionne-t-elle l'avenir de l'économie mondiale? Va-t-elle marquer l'émergence d'un nouveau modèle économique? Question posée à trois invités. Dominique Guélec, économiste à l'OCDE, Séverin Audet, directeur de WeWork France, et Loïc Dosseur, co-directeur général de Paris & Co. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons surtout vu ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas en France. Mais ni la France ni aucun autre pays ne possède aucune des grandes entreprises qui forment les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. La Silicon Valley n'a-t-elle pas pris une avance irrattrapable en matière d'innovation? Je vous pose la question à tous les trois, à Loïc Dosseur, parce que vous êtes en train d'essayer de créer une Silicon Valley parisienne, en fait.
Rien que ça. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si effectivement les États-Unis ou la Silicon Valley en particulier ont pris une longueur d'avance. Après, il y a une autre forme d'innovation. On l'a vu peut-être dans le vote Trump aux États-Unis. Il y avait eu un papier assez remarquable de Carlos Diaz sur.
Carlos Diaz, qui est-ce?
Carlos Diaz, c'est un serial entrepreneur français installé dans la Silicon Valley, qui crée beaucoup de dynamique effectivement pour aussi jouer cette carte de la France et d'analyser un petit peu, de comprendre ce qui se passe. Et il avait noté de façon, je trouve, assez pertinente le fait qu'il y a une distance très forte entre l'innovation et l'impact de l'innovation dans la Silicon Valley avec les habitants, avec le territoire. Ce décrochage peut être dangereux parce qu'effectivement, il crée un gap très important et on l'a vu dans le vote américain, probablement. Ce que j'espère, le territoire français peut, peut-être pas totalement empêcher, mais organiser et apaiser. Donc d'avoir des entreprises qui innovent avec une attention différente, avec une proximité avec l'utilisateur final, avec le client final qui est différente. Et on voit émerger effectivement des entreprises qui, à défaut de trouver des capitaux pour faire de leur croissance extrêmement rapide, capitalistique, trouvent peut-être probablement plus de clients payants. Et c'est un modèle plus économique que capitalistique, qui, je pense, peut faire des différences assez fondamentales. On l'a vu dans l'exemple d'un Blablacar, qui a réussi son retournement, son accélération, effectivement grâce à l'intelligence de ses investisseurs, mais aussi parce qu'il y a eu un modèle économique à la clé qui a permis une croissance économique. On a de nombreux exemples de ce type-là. Pour nous, c'est un facteur assez rassurant et sur lequel on essaye de travailler beaucoup, donc vraiment d'ancrer dans le réel les entreprises en début de croissance.
C'est-à-dire faire participer la société entière à l'enrichissement des créateurs d'entreprises.
Par la notion simplement de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est pas demander effectivement aux habitants d'investir forcément dans les startups. Ça, ce serait dans un modèle où effectivement on serait dans une économie où naturellement chacun d'entre nous se sent partie prenante et actionnaire potentiel. Non, c'est d'être client. Et donc les entrepreneurs qui émergent aujourd'hui se posent la question fondamentale de qui va faire vivre mon entreprise. Il y a deux outils, il y a le capital et puis il y a de l'autre côté le client. Donc est-ce que l'entreprise que je fais, que je lance, est-ce qu'à un moment ou un autre, quelqu'un va acheter mon produit ou mon service? Et pas être uniquement dans une perspective de trouver un investisseur qui trouvera un investisseur qui trouvera un investisseur. C'est deux approches différentes qui ne sont pas antinomiques, qui sont complémentaires. Ce que j'observe aujourd'hui, nous, dans nos métiers, c'est qu'effectivement, nombre des entrepreneurs que nous rencontrons, qui ne sont pas la moyenne d'âge, là on sort de nos pyramides d'âge en ce moment, on a plus de gens entre 30 et 40 ans que de moins de 30 ans. Il faut aussi revenir sur un certain nombre de clichés sur l'entrepreneur start-up. C'est des gens qui ont 10-15 ans d'expérience, qui sont très diplômés, majoritairement des hommes, très majoritairement, et ça, c'est pas forcément un très bon signal.
Comme le témoigne la qualité des trois invités que j'ai dans ce studio. Ce sont trois
exactement.
Hommes blancs.
Hein? J'ai une co-directrice générale, donc oui. Nous sommes hommes et femmes pour diriger Paris Tech. Mais non, effectivement, c'est 90% d'hommes, c'est 92% de diplômés de plus, bac plus 5. C'est chez nous 35% d'entrepreneurs qui ont entre 30 et 40 ans. Donc c'est des gens qui ont aussi une approche vis-à-vis de l'économie réelle sur laquelle on travaille énormément. Je pense que ça peut être un facteur différenciant et qui, je l'espère, c'est notre pari, va nous permettre de faire croître des entreprises, effectivement, par la relation client.
Séverin Audet, Loïc Dosseur, t'es un peu éloigné de la question que je posais initialement. Est-ce que la Silicon Valley a pris un avantage irrattrapable par rapport au reste de la nouvelle économie mondiale?
Bah, elle a pris un avantage certain, irrattrapable, j'en sais rien, et j'espère bien que non. Il y a quelque chose de paradoxal en France. On est un des pays où l'usage est le plus à l'état de l'art. C'est-à-dire que les Français sont des usagers des toutes dernières technologies, ont les comportements les plus avancés. Et à côté de ça, on se rend compte que aujourd'hui, ce qui est l'essentiel de l'économie nouvelle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle est entièrement aux États-Unis, et donc le français nourrit l'intelligence artificielle des entreprises américaines, parce qu'il faut avoir une certaine taille. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'avantage compétitif de l'économie américaine de demain. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait commencer à faire, c'est de se demander s'il ne faut pas introduire la notion, un certain nombre de notions à l'école. Je pense que l'école, elle ne peut pas former aux métiers de demain. Ça, c'est une erreur, puisque on sait à peu près que demain, on va faire 15 métiers dans sa vie, et qu'aucun d'eux n'existe déjà aujourd'hui, donc on va les découvrir au fur et à mesure. En revanche, on pourrait apprendre le code à l'école. Et ça, c'est par exemple une des choses qui nous permettrait de remettre un pied à l'étrier de la compétition mondiale de l'innovation de ce point de vue-là.
On parlait de Donald Trump tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Dominique Guélec, est-ce que cette avance en matière d'innovation a un impact sur la structure de l'économie américaine elle-même?
Oui, certainement. Comme le disait M. Naudet, la Silicon Valley a effectivement pris un grand avantage, et au-delà, Amazon ou Microsoft, c'est la côte ouest.
La côte ouest,
c'est pas la Silicon Valley. Oui. Ceci dit, cet avantage n'est pas nécessairement irréversible. Premièrement, c'est aux autorités de la concurrence d'intervenir pour faire en sorte que les marchés restent ouverts et que la façon dont les entreprises en tête essayent de solidifier leur position en acquérant tous les concurrents potentiels les uns après les autres.
C'est ce qui se passe un peu.
C'est ce qui se passe un petit peu, et c'est ce qui doit être sérieusement contrôlé par les autorités publiques. C'est pas nécessairement une bonne chose.
Une concentration croissante des entreprises.
Absolument, une concentration dans ces secteurs. Mais le deuxième élément, je pense, qui peut aider à une démocratisation de la digitalisation. Alors, quand on parle de digitalisation, il faut pas seulement penser à un secteur particulier. C'est une révolution qui est en train de gagner l'ensemble des secteurs. On le voit même avec l'automobile, dans tous les secteurs, la chimie, etc. Tout est en train de se digitaliser. Et l'enjeu pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises, c'est de réussir à franchir la marche. Et ce ne sont pas les quelques géants de la Silicon Valley qui vont tout faire demain. Ils feront peut-être tout dans leur secteur, mais on va pas seulement consommer de l'Internet. On continuera à utiliser des véhicules pour se déplacer, on continuera à manger, etc. Et là, la digitalisation va également avoir des effets qui peuvent être des effets... Enfin, nos pays peuvent avoir plus de chances, car il y a des savoir-faire traditionnels que la digitalisation ne va pas complètement remettre en cause.
Loïc Dosseur, je vous voyais opiner du
sujet. Oui, non, je pensais en fait il y a à la fois effectivement ce qu'avait évoqué Sylvain Naudet sur la formation très en amont effectivement des enfants. Il y a le programme Paris Code qui a été lancé quand on parlait de la capacité des métropoles à agir, qui effectivement invite tout un chacun, toute forme d'école finalement à s'impliquer dans cet apprentissage d'une langue universelle qui est le code. Je pensais également ce qui a été dit par mon voisin, Dominique Guélec, sur la formation supérieure, et effectivement, les GAFA sont très souvent nés au sein des universités américaines, à Berkeley ou ailleurs, à Harvard, portés par des jeunes universitaires très bien formés, avec une tête bien faite, mais qui ont disposé effectivement d'une capacité sur le lieu de l'université à innover. Une liberté dans leur format d'études et éventuellement des véhicules à la fois technologiques et d'investissement. Aujourd'hui, et moi je le constate depuis, mais c'est très récent, 5-6 ans, penser entrepreneuriat innovant dans les grandes écoles françaises, ça fonctionne très bien. Tu sais, tu ris, c'est vrai, mais ça fonctionne. Je vais donner un exemple. Il y a 5 ans, j'interviens à l'école des mines dans une formation devant des élèves ingénieurs. Quasiment pas de questions, une écoute religieuse, des gens bien élevés. Dans le métro, j'ai 2 jeunes qui me rappellent, qui me rattrapent et qui commencent à me poser plein de questions pour la création de leur boîte. Et je leur dis, mais ouais, excusez-moi, j'ai un rendez-vous, je file. Pourquoi vous ne m'avez pas posé les questions en classe? Il m'a dit, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas, parce que nous sommes élèves ingénieurs des mines. Et donc, socialement, nous ne pouvons pas dire que nous allons créer une entreprise. Nous devons rejoindre une grande entreprise française ou un grand corps d'État. C'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, la majorité des jeunes dans ces grandes écoles suivent des filières entrepreneuriales. C'est un début, il y a encore beaucoup à faire, mais néanmoins, il y a des polytechniciens qui créent des boîtes, il y a des HEC qui créent des boîtes, il y a des élèves ingénieurs de l'école supérieure d'optique, de Supélec, de Centrale, et qui créent des très belles boîtes. Et c'est un mouvement. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'université. L'université est quasiment totalement absente de ce sujet, et l'immense majorité des jeunes qui se forment aujourd'hui sont à l'université.
Alors, parmi les grandes puissances économiques qui font dans l'innovation, il y a la Chine. La Chine, où démographie oblige, vivent la moitié des internautes de la planète. La puissance publique chinoise soutient les entrepreneurs digitaux. Exemple, le paiement via le téléphone mobile y est désormais monnaie courante. Le nombre d'utilisateurs a explosé l'an dernier, plus 31%. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Heike Schmidt à Pékin.
L'argent liquide, inutile. La carte de crédit, ringard. Partout en Chine, il suffit de sortir son smartphone pour payer. La preuve, même à cet arrêt de bus où messieurs et madame Wang vendent des crêpes, le code QR affiché dans leur petite échoppe remplace les billets de banque. Un client sur deux paye désormais via son téléphone portable.
C'est pratique, plus la peine d'avoir de la monnaie sur soi. Nos clients scannent le QR code et paient avec leur smartphone. Du coup, on n'a plus de soucis avec les faux billets.
Et puis on économise du temps, nous sommes très occupés. Avant, l'un de nous deux faisait cuire les crêpes et l'autre rendait la monnaie. C'est plus simple aussi pour nos achats en gros. La farine, l'huile, on paye directement par l'application WeChat.
L'an dernier, le marché des transactions mobiles a doublé en Chine. Parmi les 710 millions d'internautes, près de 70% ont effectué un achat à l'aide de leur téléphone portable directement connecté au compte en banque. Allez, entente, la crêpe à l'œuf ne coûte que 5 yuan, soit 65 centimes. Je numérise le code QR avec mon téléphone. 5 yuan, ça s'affiche donc sur l'écran de mon portable. Payer maintenant, je dois cliquer dessus. Faire mon code, le code bancaire, ça marche. Et cet argent est directement transféré sur le compte de ces commerçants. Une innovation exportable. En tout cas, Tencent et Alibaba, les deux géants d'Internet, partent à la conquête du monde où tout reste à faire, selon Alexis Bonhomme, patron de Curiosity China, une société de marketing digital.
C'est en train d'être développé petit à petit dans les milieux aéroportuaires, dans les grands magasins, mais aller avoir une auberge en Provence qui accepte WeChat Payments, on n'y est pas encore.
Est-ce que les Chinois ont une longueur d'avance aujourd'hui par rapport au reste du monde ?
Clairement. Il y a un tissu technologique et une compréhension de la technologie en Chine qui n'existe pas ou peu ailleurs. Même dans la Silicon Valley, on n'en est pas à ce point-là. Donc c'est vrai qu'en Chine, les gens sont passés d'un système de paiement classique par billet ou par pièce à un paiement non physique en une année et demie. C'est extrêmement impressionnant à voir.
Google, Apple, Facebook ou encore Amazon, tous tentent de rattraper leur retard. Mais la Chine est bien placée pour gagner la bataille du paiement mobile.
L'innovation, c'est encouragé déjà par les écoles, les universités, c'est encouragé par la mentalité des gens. Être entrepreneur, créer sa société, se développer, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et après, le consommateur chinois a envie de créer, a envie de vendre, a envie d'essayer. Il essaye, ça marche pas, c'est pas grave, il recommence derrière. Donc, il y a un rapport à l'échec qui est extrêmement positif, qu'on peut retrouver un peu aux États-Unis, qui n'est pas forcément le cas en France, mais avant tout, il y a une mentalité entrepreneuriale qui n'existe pas forcément à l'Ouest, et ça, on le voit dans la vie de tous les jours en Chine, qu'on habite à Pékin, Shanghai, Canton, c'est extrêmement prégnant.
Pour l'heure, il n'y a qu'en Chine que l'on peut, sans souci, laisser son portefeuille à la maison.
Je porte rarement un portefeuille sur moi. Dans les magasins et les restaurants, je paye maintenant par WeChat.
Dit monsieur Tiao, qui repart avec sa crêpe sur le pouce.
Un reportage signé Heike Schmidt à Pékin dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, où nous parlons de la bataille mondiale de l'innovation avec trois invités. Dominique Guélec, économiste à l'OCDE, Séverin Naudet, directeur de WeWork France, et Loïc Dosseur, co-directeur général de Paris & Co. Alors, je reviens à ce reportage, c'est une image très intéressante de la Chine qu'on a à travers cette enquête d'Heike Schmidt, celle d'un pays innovateur, d'un pays d'entrepreneurs. C'est la vision que vous en avez, Dominique Guélec ?
Absolument. La Chine est aujourd'hui le premier pays au monde par les dépenses en R&D, juste après les États-Unis.
En recherche et développement,
ce qui veut dire que la Chine dépense plus que l'ensemble de l'Europe. L'Europe a 28. Hein. passé là à 27. Et les progrès ont été énormes. Ça a cru à 30% par an pendant 20 ans. Alors, c'est un petit peu ralenti aujourd'hui, bien sûr. Alors, et la qualité de cette recherche s'est accrue également. Tous les indicateurs dont on peut disposer en termes de citation, des papiers scientifiques, etc., vont dans le même sens. Alors, pour revenir sur le reportage que vous nous avez présenté, qui est absolument passionnant, je dirais qu'il est vrai que la Chine s'est extraordinairement développée. Il est vrai que dans la mentalité chinoise, on a un dynamisme, une ouverture à l'innovation tout à fait extraordinaire. Enfin, il faut quand même dire qu'ils ont également un avantage, c'est qu'ils partent de plus bas. Vous allez en Chine, tout est neuf, parce qu'ils ont tout construit au cours des 20 dernières années. Nous, on a construit des infrastructures au cours des ans pour des systèmes de paiement par chèque, par carte bancaire, etc. Ce que eux n'ont pas fait. Donc, vous voyez, ils peuvent passer directement d'un système de cash à un système qui est le plus avancé qui soit. Nous, on a à gérer, en quelque sorte, un passé récent, mais je pense qu'il y a des progrès également chez nous. Il ne faut pas désespérer de quelques années de retard dans ce domaine.
Parisenko, Loïc Dosseur, s'intéresse à ce qui se passe à Pékin ?
Oh ben inévitablement, on a dans l'équipe un collaborateur chinois parce qu'on a aussi énormément de délégations chinoises, beaucoup d'entrepreneurs chinois, de chercheurs chinois, de décideurs politiques qui viennent observer ce qui se passe à Paris parce que pour eux, c'est un formidable laboratoire. Bon, ils adorent Paris parce qu'il y a le côté ville millénaire, mais et en même temps, ça nous a un petit peu effectivement de nos lenteurs qui sont liées à ce qui est dit à l'instant, c'est-à-dire qu'on a des entreprises françaises, de puissantes entreprises françaises qui sont là depuis 100, 120, 150 ans. Et qui ont structuré leur fonctionnement avec des systèmes qui aujourd'hui sont totalement antidéluviens, mais néanmoins qui sont là, qui sont leurs actifs, qui sont devenus, j'allais dire, des passifs. On ne parle plus de compta, mais effectivement, le système télécom ou le système, les logiciels aujourd'hui de traitement de l'information bancaire datent des années 50. Et donc, on a upgradé ces systèmes-là.
Upgradé, ça veut dire améliorer.
On a amélioré en optimisant régulièrement, effectivement, le logiciel de gestion, de traitement. Des chambres entre les banques sur les chéquiers, les chambres de compensation. Et il est à peu près inimaginable pour des très grandes banques françaises que de tirer un trait sur le système existant, il faudra arrêter la machine et basculer sur d'autres systèmes pour faire le saut. Donc ils vont le faire effectivement en Chine, ils vont le faire en Afrique. Enfin, les télécoms, Orange fait un développement remarquable en termes d'innovation, ils innovent plus en Afrique probablement qu'en France, parce que l'Afrique n'a pas de structure, d'infrastructure de télécom tel qu'on l'a en Europe, et donc ça autorise un certain nombre d'innovations. Donc c'est pour nous effectivement un système de contraintes très puissant, et c'est comment aujourd'hui on arrive à ce que les grandes entreprises françaises ne soient pas dans une situation de protectionnisme, c'est-à-dire de verrouiller l'innovation qui émerge dans l'univers start-up pour ne pas remettre en question des monopoles quasi acquis, une organisation du marché acquise, arrive à s'ouvrir, à se fracturer, à se diviser probablement, pour que des innovations émergent dans ce pays, s'installent durablement ici.
Séverin Audet, ce reportage d'Eike Schmidt à Pékin, il vous donnait envie de tout faire péter ici en France, de tout casser, de ces structures, ces archaïsmes que vous dénoncez là depuis le début de l'émission, ils ne sont pas à l'œuvre en Chine ?
Alors d'abord, il y a une grande banque française cette semaine qui a annoncé que elle était la première à proposer la reconnaissance vocale pour le paiement. Donc on n'est pas un pays qui innove pas, hein, c'est pas ce que j'ai dit, on est un pays qui innove énormément. Simplement, on se donne pas les moyens, pour revenir à ce que Loïc disait tout à l'heure, d'être plutôt fier d'être entrepreneur ou de vouloir être entrepreneur que d'avoir un statut social ou de passer un concours. Bon, ça, c'est un vrai problème structurel. Aux États-Unis, c'est Computer Science à Harvard qui est le truc que tout le monde veut faire. C'est pas l'ENA ou Polytechnique. Bon. Et ce qui se passe en Chine, on dit tous les deux, quand on part d'une feuille blanche, c'est plus facile avec les moyens colossaux et l'absence de questions par ailleurs d'un pays comme la Chine d'avancer.
L'absence de questions politiques, vous voulez dire ?
Oui, enfin en Chine, on vous donne une direction et vous la suivez.
Ouais, bon,
c'est pas tout à fait exactement comme ce que vous voulez dire. Ça se passe chez nous. Et heureusement d'ailleurs, il y a une forme de débat, il y a une culture, il y a une histoire qu'on n'a pas oubliée et il y a effectivement pas une feuille blanche. Donc je pense pas que ça soit tout à fait comparable. Néanmoins, ça nous permet de nous dire quand même que il faut qu'on se dépêche de faire faire bouger un certain nombre de choses et d'abattre un certain nombre de barrières.
Alors, Loïc Dossard, il y a quelques instants, vous parliez de l'Afrique, de l'innovation. Il y en a bien sûr en Afrique. En voilà un exemple. Angel Adjelaja est nigériane. C'est la fondatrice d'une société qui s'appelle Fresh Direct et qui relève un défi, pratiquer l'agriculture urbaine dans des conteneurs contrôlés à distance. Cette femme a été récompensée lors d'un récent forum mondial de l'économie à Durban, le Davos africain, et elle a rejoint le groupe des 6 entrepreneurs les plus innovants du continent. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Nicolas Champeau à Durban.
L'agriculture peut être urbaine et sexy, c'est la démonstration d'Angel Adjelaja. Cette jeune trentenaire qui a décroché un diplôme en biologie aux États-Unis fait pousser des légumes dans des containers qu'elle empile. Chaque container de 14 mètres carrés a le même rendement qu'un champ de la taille d'un terrain de football. Elle cultive en hydroponie, une culture végétale hors sol en circuit fermé, mais aussi en aquaponie, les engrais proviennent des poissons. Ses salariés pourront bientôt tout contrôler à partir de leur téléphone.
Nous allons automatiser nos containers, donc on pourra appuyer sur un bouton de notre téléphone pour lancer la lumière, vérifier le pH, activer nos pompes, contrôler le niveau d'oxygène, de CO2. On pourra faire tout ça assis à notre bureau tout en écoutant Beyoncé sur notre téléphone.
Angel Adjelaja a développé ce concept car elle ne parvenait pas à joindre les deux bouts avec sa ferme traditionnelle à 3 heures de Lagos.
L'agriculture urbaine, pour nous, c'était la solution à tous les problèmes de transport, les routes en mauvais état. Et puis à la campagne, il fallait des chambres froides pour stocker. Alors que maintenant, nous sommes à Abuja, dans la ville, et il nous faut moins de 15 minutes pour rejoindre nos clients.
Ses clients sont des restaurants chics et des hôtels qui achètent ses fraises, son basilic et ses petites endives. D'ordinaire, ils sont importés d'Europe.
Je ne voulais pas ôter le pain de la bouche des agriculteurs ruraux traditionnels, donc je me suis concentrée sur les produits que ces compagnies importaient, de la laitue, des choses qui poussent dans des climats froids. Et on sait que ces entreprises préfèrent des solutions locales. Avec nous, elles ont la même qualité, nos produits ont autant de goût, et l'avantage, c'est qu'ils sont plus frais.
Fresh Direct emploie désormais 10 personnes à temps plein et 50 à temps partiel. Chaque conteneur a un retour sur investissement au bout de 6 mois. Angel Adjelaja espère grandir et passer à une centaine de conteneurs, voire plus. Sa distinction reçue au Davos africain lui a ouvert de nombreuses portes.
Un reportage signé Nicolas Champeau à Durban. On parlait d'inégalité dans la société américaine créée en quelque sorte par cet envol de l'innovation. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré cette expérience et beaucoup d'innovation en Afrique, des inégalités géographiques dans le développement de cette innovation, Dominique Guélec ? Et est-ce que l'Afrique ne risque pas d'être laissée de côté et dépassée encore une fois par cet envol technologique et digital ?
Il est clair que lorsqu'il y a une accélération technologique, notamment dans certains secteurs, on a toujours le risque que d'autres secteurs et des pays qui ne portent pas ces secteurs se retrouvent derrière. Et la question qui se pose à partir de là pour les pouvoirs publics dans les différents pays, c'est comment raccrocher les wagons. On a vu d'un côté que la digitalisation a pu accroître des inégalités, hein, que ce soit les inégalités entre capital et travail, les inégalités entre salariés. Mais on a aussi, d'un point de vue un peu plus optimiste, le genre de reportage que vous avez passé. L'innovation peut être inclusive. L'innovation, ça peut aussi être un moyen pour des gens de conditions défavorisées qui appartiennent souvent à des catégories de population, victimes de discrimination, de niveau d'éducation bas, etc. Ça peut être un moyen un petit peu de sauter par-dessus les barrières sociales. Et on l'a vu notamment en Afrique, mais on le voit aussi dans d'autres continents, y compris en France. Ce ne sera pas nécessairement les innovations qui sont le plus intensives en technologie, mais l'innovation, ce n'est pas seulement le digital. C'est aussi, par exemple, en France, dans l'agriculture, hein, des produits traditionnels qui sont régénérés, etc. Et là, je dirais, le champ de concurrence est beaucoup plus ouvert.
Séverin Naudet, votre entreprise est installée en Afrique ?
Non, pas encore.
D'abord, ça n'est pas mon entreprise.
Oui, enfin, c'est celle dans laquelle vous travaillez.
Oui. Non, elle n'est pas installée en Afrique aujourd'hui. C'est une entreprise qui est très jeune, qui s'installe en Chine récemment, et elle n'est pas encore en Afrique. Mais l'Afrique, pour le coup, est vraiment un continent qui a un ADN très très proche de cette entreprise, puisque l'idée de construire des plateformes communautaires pour que des entrepreneurs puissent s'en servir comme levier de croissance et d'internationalisation est parfait pour le continent africain.
Loïc Dosseur, est-ce que Paris Co, que vous co-dirigez, travaille en Afrique ?
Oui, de plus en plus. On a conduit même une étude là, sur l'année qui vient de s'écouler avec l'Institut Choiseul, justement pour bien comprendre les mécanismes d'innovation en Afrique. Ils ont leurs particularités, ce que vous disiez. Ils répondent à des enjeux différents en termes d'emploi, d'inclusion, de technologie ou pas, de saut technologique. Nous, on voit très bien aujourd'hui pour un certain nombre de start-up parisiennes, quand on parle de l'agriculture urbaine, installer un conteneur dans Paris, c'est un défi. Mais c'est un défi parce que l'espace public parisien est extrêmement dense et du coup très compliqué à manipuler. L'espace en Afrique, très différent, bien évidemment. Donc de tester une solution dans Paris, d'expérimenter ce que nous faisons à travers l'Urban Lab, une solution de l'éprouver à Paris et ensuite effectivement de pouvoir faire un développement économique en Afrique en lien effectivement avec des lieux d'innovation et des acteurs, des entrepreneurs locaux, ces actions sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous sommes accompagnés aussi avec quelques grandes entreprises qui ont compris qu'elles n'allaient pas pouvoir et elles ne devaient pas déployer la même approche que celle qu'elles ont faite il y a un siècle en Europe.
Dominique Guélec, l'Afrique c'est un acteur important potentiellement dans l'innovation ?
Potentiellement, certainement. On a vu au Kenya le développement de systèmes de paiement par téléphone, ouais. Notamment. Le Kenya a été un précurseur, un pionnier. Ça s'est étendu un petit peu à toute l'Afrique. On voit aujourd'hui les prémices de développement industriel en Afrique, notamment apportées par des entreprises chinoises. Et les Africains, je pense, beaucoup d'Africains sont en train de sauter dans le bateau. Il y a un dynamisme, un florissement culturel, etc., dans ce continent qui peut donner beaucoup d'espoir.
Eh bien, on verra Séverin Naudel, Loïc Dosseur, Dominique Guélec, lors de la prochaine émission consacrée à cette thématique, dans quelques années, si l'Afrique a tenu ses promesses. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois d'y avoir participé. Guillaume Munier et Mathieu Salabert l'ont réalisé. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.